Bonjour à tous et bienvenue sur notre première interview de Corps et Esprit Martial. Nous accueillons aujourd'hui Maxime Villefort. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, Maxime, s'il te plaît ?
Moi, c'est Maxime Villefort, j'ai 19 ans. Je suis professeur, aide professeur du judo club des Cheminots Lunel. Et je suis aussi compétiteur en tant que judoka. Voilà.
D'accord. Et ça fait combien de temps que tu pratiques ?
Depuis l'âge de 4 ans, donc ça fait 15 ans maintenant.
D'accord. Tu n'as pas eu d'interruption longue durée ou des choses comme ça? Tu t'es pas arrêté 3-4 ans parce que tu en avais marre
Alors, si j'ai eu une interruption, un arrêt de la compétition de une saison, donc de un an, à cause de blessures aux épaules répétées, je m'étais éclaté 4 fois l'épaule gauche et une fois l'épaule droite.
Ouais, ça, c'est les problèmes de la compétition. Hein. C'est vrai que bon, ben, on s'engage plus et il y a plus de risques de blessures, quoi, au final. Donc
Ouais,
ça,
c'est ça.
C'est un peu le risque. Mais bon, t'as réussi à récupérer du coup sur ces épaules?
J'ai tout récupéré avec séance de kiné, ostéo, et j'ai fait aussi de la muscu pour récupérer, pour bien me renforcer. Et après, pendant une saison, ben, c'était la saison dernière, hein, donc saison 2017-2018, j'ai galéré. Je me suis fait quasiment planter sur toutes les compètes. J'ai fait quelques petits trucs, mais sinon, je me suis fait défoncer. Et là, c'est à partir de cette saison que j'ai commencé à vraiment bien récupérer.
Ouais, d'accord. Ouais, après, voilà, ça, c'est important de l'entendre aussi parce que souvent, on entend les compétiteurs qui ne s'arrêtent pas, etc. Quand on prend une blessure, c'est important de prendre le temps de récupérer et de souffler et de suivre des spécialistes et des avis de spécialistes parce qu'il y en a qui récupèrent n'importe comment et puis après, bah, au bout de 5-6 ans, ça se paie, il y a des douleurs et c'est vrai que c'est dommage. D'ailleurs, tu as eu une douleur à la cheville, je sais, enfin, tu t'es blessé à la cheville assez
Ouais.
sévèrement. Tu peux nous raconter un peu comment c'est arrivé?
Truc tout con en fait. J'étais en entraînement. Il y a un collègue à moi qui s'appelle Sofiane avec Mohamed Hammer, pour ceux qui veulent aller voir, qui est un des meilleurs judokas de France dans la catégorie des moins de 90 kilos. Et il était en équipe de France junior et il venait en fait faire un entraînement avec nous en fait. Hein. Voilà, dans son club d'origine, parce que maintenant il est sur Paris. Donc avant il était à Lunel, il est venu faire un entraînement avec nous, et je me suis entraîné avec lui. Et bien sûr, on a fait les bois, comme d'habitude. Et j'ai voulu faire, pour ceux qui connaissent, j'ai voulu faire un Ippon Kochigari. Et lui, il m'a bloqué, il m'a contré, sauf que bon, il fait 30 kilos de plus que moi. Et ma cheville, elle a fait crack. Et je suis
Ouais.
resté par terre pendant 10 minutes. Après, j'ai pu me relever. Sur le coup, en fait, ça faisait pas si mal que ça. Mais le lendemain, je pouvais plus bouger. Et en fait, j'avais fait une grosse entorse de la cheville et je m'étais partiellement déchiré en fait un des ligaments en fait qui soutient la cheville.
Ouais, donc voilà quoi. C'est vrai que c'est intéressant cet exemple parce que je trouve que ça montre à quel point les accidents arrivent bêtement parfois. C'est-à-dire qu'on est en entraînement, on est tranquille et puis on va un peu vite, on va un peu fort et parfois on se blesse.
C'est
Et c'est vrai
exactement ça.
qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Malheureusement, on est dans des sports où la blessure arrive. Voilà, on peut être aussi bienveillant qu'on veut, etc. À partir du moment où il y a du contact, il y a des risques de blessure, ça peut arriver. Et il faut en avoir conscience. Et surtout, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le protocole que tu as mis en place pour récupérer ta cheville, ta proprioception et ton équilibre.
Alors, en fait, dès que j'ai eu ça, avis médical, hein, de suite, on m'a immobilisé pendant 10 jours. Donc pendant 10 jours, j'ai pu rien faire, mais vraiment. C'est-à-dire, j'avais une attelle et tout, des béquilles, à rien faire pendant 10 jours. Et après, séance de kiné, voilà. Et le gars, qui est un très très bon kiné, m'a permis en fait de récupérer plus ou moins vite, on va dire, parce que bon, ça se récupère pas comme ça, malheureusement. Et beaucoup de proprioception en fait. Voilà. Ce qui est important en fait, c'est de retrouver la mobilité de la cheville parce qu'une fois qu'elle est démontée, tu perds en mobilité parce que vu que tu l'immobilises, pendant un moment, malheureusement, elle peut plus bouger en fait comme tu le faisais avant. D'ailleurs, même encore actuellement, ça, je peux pas la bouger à l'identique que ma cheville gauche.
Oui, ça fait combien de temps?
Ça fait, j'ai fait ça. Attends, j'ai attends, attends. J'ai fait. C'était juste après une compétition, donc à Ramon, j'ai fait ça début janvier. Ouais, on va dire milieu janvier, j'ai fait ça.
Oui, donc ça fait déjà 5 mois, quoi.
À peu près, ouais.
Ça fait 5 mois, et 5 mois, et tu n'as pas retrouvé la mobilité. Mais après, tu as repris les entraînements, mais adaptés, c'est ça?
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Voilà, même si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, hein, parce que Maxime, vous voyez, il continue, il est sérieux, il continue à préparer. Là, il va partir en France, donc c'est pas rien. Et malgré ça, il a adapté sa pratique. Parce que s'il veut pouvoir durer dans le temps, il faut à un moment qu'il accepte de laisser de côté certaines techniques peut-être qui lui tiennent à cœur, et peut-être qu'il a laissé le Ippon Koichigari pour un certain temps, le temps de récupérer au niveau de
Il y a pas mal de trucs que j'ai laissé de côté.
la cheville. Mais après, ça permet de s'entraîner sur autre chose, on s'entraîne différemment.
Bah, vu que moi je suis surtout un gros bourrin, ça permet surtout de travailler mobilité et plus dans. Bah, en fait, ce que j'ai beaucoup fait, surtout, c'est du travail de garde. C'est-à-dire, vu que je pouvais pas trop utiliser mes jambes, et bah, et pas utiliser les jambes, tu travailles le haut du corps. Du coup, bah, j'ai beaucoup travaillé la garde en fait. Pendant, ouais, je crois que pendant 2 semaines, en fait, au lieu de faire des combats avec, comme les autres, eh ben, je prenais un gars et je lui disais désolé et tout, mais moi je peux pas combattre, est-ce que ça te dit, on fait une bataille de garde. Du coup, pendant 4 minutes, bah, bataille de garde, que sur les mains, que sur les mains.
Ouais, mais alors moi je trouve que finalement c'est t'as eu une super réaction, c'est-à-dire que quelque chose qui était un inconvénient, t'en as fait un avantage, t'es parti travailler sur autre chose et tu t'es pas resté immobile. Parce que certaines personnes ont tendance à dire j'ai été blessé, je ne fais plus rien du tout. À partir du moment où on peut activer, alors effectivement, hein, si par exemple c'est une douleur au cervical, on va faire attention, mais il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut adapter. Et voilà, par exemple, le travail de garde, qui est quelque chose qu'on va pas forcément prendre le temps de travailler une fois qu'on est à ton stade. Parce que ben, on maîtrise quand même, c'est pas quelque chose qu'on va travailler à part entière, ça permet de revenir dessus, de prendre un temps et de renforcer sa technique.
C'est
Et
exactement ça.
je trouve ça très intéressant du coup. Je voulais savoir, tu pratiques combien d'heures par semaine en moyenne, juste le judo?
Juste le judo? Alors
Combien d'heures au dojo
exactement
t'es à peu près par semaine?
combien? Alors parce que ça dépend. Il y a les heures au dojo que je suis, parce qu'aussi il y a des cours où j'enseigne, mais il y a des cours où que je fais, donc où je m'entraîne. En global, si tu cumules le tout, alors je peux même te dire exactement, je suis 2 heures le lundi, mercredi, vendredi. Ouais, je tourne environ à entre 8 et 10 heures dans le dojo par semaine.
Ah, ça commence à faire, ouais. Ça commence à faire pas mal. Et à côté de ça, tu as ta prépa, du coup, prépa physique. Et tu consacres combien de temps par semaine à la prépa physique en plus?
Ça va dépendre en fait, ça va dépendre des cycles. C'est-à-dire maintenant, je fais. En fait, à l'époque, il y a quelques saisons en arrière, je faisais le tout en même temps. C'est-à-dire, je faisais beaucoup de prépa physique et en même temps, je faisais le judo. Maintenant, vu que j'ai, on va dire, un peu étudié, un peu vu comment ça fonctionnait tout ça, il y a des fois où ben, je vais plus travailler de technique et laisser un peu la prépa physique de côté. Et il y a des cycles où je vais au contraire moins travailler technique et plus me concentrer sur la prépa physique. Du coup, pour te dire, actuellement, je suis dans un cycle technique, ce qui fait que la prépa physique, j'en fais pas du tout.
D'accord. Donc tu fais pas par exemple de séance de muscu à la maison ou quoi que ce soit.
Pas pour l'instant, non. Pas
Pas
pour
pour
l'instant.
l'instant.
Ça va revenir, mais pour l'instant, non.
Ouais. Donc du coup, je voulais savoir. Souvent dans les arts martiaux, on dit la prépa physique, c'est soit il faut en faire tout le temps quand on écoute les personnes, soit il faut en faire quasiment jamais. Et je voulais savoir toi ton rapport à la prépa physique. Quand est-ce que tu as commencé à t'y intéresser? Comment tu t'y es intéressé? Est-ce que tu trouves ça nécessaire pour ton judo? Voilà ta position un peu.
Alors en fait, j'ai commencé à m'y intéresser il y a quelques années parce que j'ai toujours été intéressé par le sport en fait. Et il y a quelques années, je suis tombé sur une vidéo par hasard d'un très grand coach en MMA qui s'appelle Fernand Lopez. Et je suis tombé
Oui, bien
aussi
sûr.
sur une vidéo d'un gars qui est un peu moins connu mais qui en voit pas mal, qui s'appelle aussi Gilles Arzen. Et les deux en fait ont un discours qui m'a plu. C'est la technique en arts martiaux ou en sport de combat, n'importe, ne peut pas être dissociée du physique. C'est impossible. Pour être bon en technique, faut avoir un bon physique. C'est pas dissociable. Et surtout maintenant dans le sport aujourd'hui, si tu veux faire des résultats en compétition, c'est impossible de passer à côté de la prépa physique. On est maintenant dans un système qui est tellement professionnalisant que tu peux pas te passer de préparation physique. Du coup, que ce soit pour les sports de combat, pour les arts martiaux, la prépa physique, c'est assuré, c'est obligatoire. Maintenant, en faire tout le temps, c'est pas la meilleure chose non plus, parce que ça dérègle aussi ton rythme technique et tu te retrouves en fait à ne plus savoir rien faire. Du coup, en fait, faut trouver un juste milieu et savoir associer préparation physique et recadrage technique et pour adapter ton rythme en fait et être le meilleur possible quoi, le meilleur de toi-même.
C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que souvent on dit les arts martiaux, c'est que de la technique et puis le physique sert à rien. Je pense que c'est un peu un leurre et que si on regarde tous les grands pratiquants d'arts martiaux, ils ont un physique qui se transforme forcément par la pratique.
C'est
après,
sûr.
Faut différencier le physique de l'esthétisme parce que les gens ont du mal aussi avec ça, mais c'est un autre problème.
Ouais.
Alors, les personnes, il y a beaucoup de grands pratiquants, tu regardes, ils n'ont pas le six-pack.
Pas tous, non.
Ouais. Et ça n'empêche pas d'être, tu prends le Banner, il n'avait pas le six-pack, ça ne l'a pas empêché d'être ce qu'il est, par exemple.
Ben, je peux prendre le meilleur exemple possible. Si vous voulez aller voir, les gars, regardez Daniel Cormier. Hein. Daniel Cormier, c'est un champion d'MMA. Le gars, il est deux fois champion. Le gars, il a eu deux ceintures mondiales dans deux catégories différentes. Vous voyez son physique, c'est loin d'être le mec parfait. Hein. Il fait 1m80, il fait 115 kilos, on va dire, un truc dans le genre. Donc, imaginez le bébé, tu vois. Mais pourtant, ça ne l'a pas empêché d'être. Je crois qu'il est cinq fois champion du monde.
Ouais, tout à fait. Et je pense que niveau physique, il y a du physique derrière. Et
Ah oui, sûr.
Voilà, moi je voulais savoir, du coup, tout à l'heure tu disais que tu faisais des études. Est-ce que tu penses essayer de gagner ta vie avec le judo? Est-ce que c'est juste une passion? Parce que la vie dans le sport aujourd'hui, c'est assez difficile.
Non, ce sera pas ma vie en fait. C'est beaucoup une passion. J'ai eu la chance en fait, bah, c'est mon coach en fait qui un jour m'a appelé et qui m'a dit si tu veux et tout, on peut t'aider à faire, on va dire, entre parenthèses, une carrière d'entraîneur, tu vois. Il m'a dit, voilà, on a des formations qui te permettent d'accéder à tel rang pour que tu puisses entraîner. Toi, en plus, tu as une faculté, c'est que tu es pas mal au sol. Du coup, je te vois bien entraîner sur des cours de combat au sol. Donc, est-ce que ça t'intéresse et tout? C'était par pur hasard. Et moi, j'ai dit, OK, comme ça, mais ce sera jamais ma vie. Non, j'ai fait des études aussi dans le sport, mais je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas ce que je voulais.
Et du coup, tu disais, tu parles de l'enseignement, et j'ai une petite question, moi, par rapport à ça. Quand tu enseignes, est-ce que tu trouves que c'est une autre façon d'apprendre ou tu n'apprends pas du tout quand tu enseignes, finalement?
Ah, tu apprends toujours. Tu es obligé d'apprendre. Si jamais tu n'apprends pas quand tu enseignes, c'est que soit tu es un branleur, soit tu n'as pas enseigné, c'est impossible. Je crois que j'ai jamais autant appris de ma vie, tu vois, depuis que j'enseigne. T'es toujours obligé d'apprendre, en fait, parce que si tu veux proposer la meilleure chose à tes élèves, tu dois aller voir les meilleurs, tu vois. Et c'est auprès des meilleurs que tu vas apprendre, parce que tu sais, parce qu'au final, tu te rends compte que bah toi, ce que tu as vu, bah c'est rien comparé à ce que des gens sont capables de faire, tu vois.
Ouais, je suis 200% d'accord. D'ailleurs, les gens, si vous voulez un peu approfondir tout ça, je vous conseille de lire notre article Shoshin dessus l'état d'esprit du débutant. Et je pense qu'il y a un autre point à approfondir, c'est que lorsqu'on explique la technique, on ne peut pas l'expliquer clairement si on ne l'a pas comprise clairement. Donc, on est toujours obligé de chercher à mieux la comprendre pour simplifier l'explication. Et du coup, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. L'enseignement, c'est une autre façon d'apprendre. Et ça se voit énormément dans les dojos. Je ne sais pas si ça marchait comme ça aussi pour toi, hein. Mais quand on commence à avoir un peu de grade, on montre aux débutants. Et rien que là, déjà, on apprend énormément, je trouve.
C'est
C'est
ça, c'est ça.
le premier pas. Du coup, tu parlais de tes études. Et moi, je voulais savoir, parce que bon, tu as quand même fait des études assez intensives, hein, donc supérieures enfin, au niveau faculté. Comment tu as fait pour gérer l'emploi du temps? Du coup, si tu avais des conseils à quelqu'un qui doit garder sa motivation. En faisant son sport et sa fac et de façon sérieuse et intensive comme toi.
Des conseils, hein?
Ouais, des conseils pour réussir à gérer cet emploi du temps et.
C'est toujours, enfin moi, ce qui m'a permis de, on va dire, de lier les deux, c'est toujours prendre du temps pour vous en fait. Vous pouvez pas toujours être dans le truc de faut que je sois à l'étude, faut que je sois à mon sport et tout, tu vois. Moi, c'était pas possible. Il fallait toujours que je prenne du temps à côté pour avec quelque chose d'autre. Et j'ai de la chance, j'ai plusieurs autres centres d'intérêt en fait qui m'ont permis de m'échapper un peu de ce truc pour pouvoir respirer un coup, puis ensuite revenir de meilleur dans les études ou dans le sport.
Je trouve que c'est un conseil très intelligent. Vraiment, le fait de réussir à prendre du recul, je trouve ça, c'est un très très bon conseil. Je devrais peut-être parfois en prendre de la graine. Et comment tu as fait, toi, pour rester motivé tout ce temps? Parce que tu pratiques depuis 4 ans. Et il y a des gens, moi je le vois, je pense que tu en as croisé aussi, hein, qui ont pratiqué 3-4 ans et qui te disent, bah, ça y est, le judo, j'y connais, le jiu-jitsu, je connais, je vais voir autre chose, quoi. Et toi, qu'est-ce qui fait que tu as réussi à rester motivé depuis tes 4 ans, tu as 19 ans? et tu continues à pratiquer avec autant d'énergie.
Quand je me fais fracasser, en fait. Non, mais c'est ça, en fait. C'est, je suis, je, comme je disais tout à l'heure, tu te rends compte, en fait, que t'es rien du tout quand tu te fais, quand tu te fais défoncer, en fait. Par exemple, je vais prendre un exemple tout con. L'année dernière, j'étais en formation et tout, donc pour avoir un diplôme et tout dans, de la Fédération Française de Judo. Et il y avait un gars qui nous qui était notre formateur, qui s'appelait Laurence Atabin. Donc Laurence Atabin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une référence dans le Jiu-Jitsu en France et dans le Judo. Et je crois qu'actuellement, il est 6e ou 7e dan. Et le gars, en gros, il nous a montré en gros des trucs de pédagogie et technique. Et j'ai eu, en fait, on va dire, le privilège d'être pris que ce soit en UK ou en partenaire ou des trucs comme ça. Et je crois que je me suis jamais autant fait démonter par quelqu'un en prestation technique, tu vois. Le gars était tellement fort, en fait, était tellement précis, était tellement capable de me démonter très facilement que je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai 19 ans. Je suis en pleine force de l'âge. Lui, le gars, il a en face de moi, il a 60 ans et il a des années de carrière derrière lui et il pourrait limite me démonter à un bras, tu vois. Pareil, l'année dernière, j'ai pris un gars très très costaud qui s'appelle Frédéric Floré, qui était vice-champion de France première division. Et c'était en entraînement de masse. Hein, j'ai pu, on a fait un combat. Je lui ai mis un os togaré en fait au tout début du combat, ce qui a mis un nippon. Et en fait, on va, voilà, grosso merdo, il m'a laissé travailler juste sur ça. Il s'est relevé, il m'a dit, allez, à mon tour. Et il m'a mis facilement 10 ou 15 boîtes, tu vois. Donc vraiment, il m'a détruit. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais rien du tout et qu'il y avait pas mal de choses encore à apprendre.
Et donc, du coup, quand tu prends ce genre de défaite, ça te traumatise, ça te met un coup de fouet. Ça, ah bah tu ne te laisses pas abattre. Et alors, quel est le discours interne que tu mets en place, tu vois, qu'est-ce que tu dis pour te motiver? Parce qu'il y en a plein qui abandonnent. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune judoka, tu vois, qui vient de perdre son premier combat et qui sera un peu démotivé, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire?
Si tu perds, en fait, c'est les jeunes judokas, quand je les vois et tout, qui perdent, je lui dis, bah, tu vois, le gars là qui est en face de toi, t'as vu, hein, c'est un humain. Il a une tête, il a deux bras, il a deux jambes. S'il atteint ce niveau, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui peut l'atteindre, tu vois. Du coup, bah, tu vas t'entraîner et la prochaine fois, tu vas le choper, tu vas aller te démonter.
Alors, justement, toi, quand t'arrives devant ce genre d'événement où tu sais qu'il y a de l'enjeu, est-ce que toi, tu stresses? Est-ce que t'as un stress avant une compétition, un combat important?
Du coup, bah, en fait, quand je fais les niveaux qualificatifs, si, je stresse de ouf. Par contre, quand j'arrive au niveau national et tout, en fait, je me dis, bah, en fait, il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien au-dessus, en fait. J'aurais beau faire champion, tu vois, bah, au-dessus, il n'y a rien. Tu vois, du coup, s'il n'y a pas besoin de stresser pour une qualification en ci ou en ça, tu vois. Voilà, je ne suis pas judoka élite, je ne vais pas être en équipe de France, tu vois. Du coup, quand j'arrive en épreuve nationale, je me dis, oh, Bob, fais-toi plaisir, c'est tout. Tu combats, tu vas à fond. Tu fonces tête baissée, on verra ce qu'il adviendra.
Et sur quel type de combat, du coup, tu prends le plus de plaisir? Ceux avec le stress des qualifications ou ceux sans le stress?
Ça va dépendre. C'est quand j'affronte un monstre, tu vois, et que vraiment, là, j'ai de la difficulté. Là, c'est là où tu prends le plus de plaisir. Même si tu perds, c'est pas grave, tu vois. Parce que, ouais, tu sais qu'en face de toi, le mec, c'est une machine de guerre, tu vois.
Mais que tu as quand même une chance de le battre, du coup. Même si tu n'as aucune chance de le battre, tu es quand même pareil ou faut quand même que tu es.
Ah, j'y vais, je fonce, je m'en fous.
Ouais, de toute façon, il faut tout donner, il n'y a pas de secret. Et comment tu fais pour gérer le stress sur les épreuves qualificatives, du coup? Tu as des techniques? Est-ce que tu as un rituel, par exemple, le matin?
Alors, il y a longtemps, en fait, je pensais que pour enlever le stress, il fallait que je sois énervé. Mais ouais, vraiment. C'est-à-dire, avant de monter sur un tapis, je faisais tout pour m'énerver, je me frappais et j'étais en mode, lui, il faut que je le tue, tu vois.
Ouais.
Et ça a marché pendant un moment, mais après, il y a une limite, en fait. Il y a une limite, c'est que tu es trop tendu et tu joues beaucoup sur ta force et tu t'épuises très vite. D'accord. Et depuis cette année, en fait, je suis en mode, j'utilise beaucoup la musique et technique surtout de visualisation. Beaucoup de techniques de visualisation. Je visualise beaucoup le combat la veille avant de me dire, je me dis, tiens, ça. Et je visualise et je respire un grand coup, technique de respiration, de la méditation aussi, ça m'a aidé. Ouais. Et quand j'arrive sur la compétition, je suis stressé, mais je ne suis pas stressé comme j'étais avant. Je suis beaucoup moins stressé. C'est du bon stress, en fait. Et je me dis, je rentre sur le tapis plus décontracté, mais avec l'envie vraiment d'aller combattre.
C'est très intéressant ce que tu dis, notamment la différence entre le bon et le mauvais stress, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais le stress, c'est quelque chose d'utile hein, au corps humain, c'est ce qui le met en état d'alerte. Hein. Donc, c'est ce qui permettait, quand on se faisait chasser parce qu'il y avait un tigre ou quoi que ce soit, bah, c'est ce qui nous permettait de nous mettre en état d'alerte. Et le stress, c'est ce qui fait que le corps va être vif à réagir. Mais il y a le mauvais stress, comme tu disais, qui va te faire t'épuiser. Et la veille, est-ce que tu as un rituel, quelque chose, par exemple, j'en sais rien, est-ce que tu vas te regarder un film, est-ce que tu vas... Tu fais comme d'habitude?
Non, même pas. Généralement, la veille, je me couche très tôt, en fait. Je me couche très tôt pour être en forme. Du coup, non, j'ai pas de rituel.
D'accord. Bah, si, t'as un rituel qui est de se coucher tôt, du coup.
Ouais, on peut dire ça. J'ai le rituel, ouais. Je me couche très tôt.
Ouais, mais oui, mais il y a un certain. Moi, j'ai rencontré des compétiteurs qui me disaient, moi, la veille, je suis plutôt du genre à regarder un film et à me coucher assez tard. J'ai fait des siestes dans la journée. Voilà, ça dépend. D'accord. Je voulais savoir si le matin, pareil, est-ce que tu as quelque chose le matin d'une compétition qui pourrait être stressante ou pas d'ailleurs, hein, mais tu as un rituel
Alors, le matin, ouais, le matin, je vérifie 50 000 fois mes affaires dans mon sac. Est-ce que j'ai bien mon kimono? Est-ce que j'ai bien ma ceinture? Est-ce que j'ai bien mon passeport? Est-ce que j'ai bien ma ceinture rouge? Est-ce que j'ai bien mes barres de céréales, ma gourde? Est-ce que j'ai tout? Et je le vérifie sans déconner 50 fois au moins dans la matinée, tu vois, ça, avant de partir. Mais
Allez,
je me
je te
rappelle.
comprends.
J'ai même un truc, c'est quand je mets mon sac dans le coffre, je l'ouvre et je regarde encore une fois pour voir si j'ai vraiment, vraiment pas tout oublié.
Oui, parce que c'est la loose quand on arrive sur place et qu'il nous manque quelque chose. Moi, ça m'est arrivé. Alors, c'était un entraînement commun et je suis parti et puis j'avais oublié ma veste de kimono et effectivement, c'est un peu la loose.
Oh
C'est pas...
putain.
Je pense qu'on a tous vécu ce genre de moment où il y a une erreur.
Je touche du bois en compétition, ça m'est jamais arrivé.
Alors en compétition, je ne te le souhaite pas parce que ce n'est pas les mêmes enjeux. Surtout que le kimono, c'est hyper important pour vous parce qu'il y a différentes formes de kimono, des kimonos plutôt courts, des kimonos un peu
Alors,
plus longs.
le pire du pire, c'est quand tu oublies ton passeport. Parce que le passeport, en fait,
Oui, tu passes pas.
c'est ta carte d'identité, en fait. Le problème, c'est si t'as pas ton passeport, les mecs à la pesée vont te regarder, ils vont te dire, ah ouais, bah tu combats pas, en fait. À la limite, le kimono, si tu l'as pas, bon, ben, il y a toujours un marchand de kimono dans la compétition. Du coup, tu peux t'en acheter un. La ceinture, il y a toujours des ceintures en vente, tu peux t'en acheter une. Même la ceinture rouge. Mais le passeport, c'est le truc le plus important.
Ouais, c'est clair, ça c'est sûr. Et au niveau du kim, du coup, tu préfères quel genre de kim? Parce que souvent, alors moi j'ai entendu, je ne suis pas judoka de base, mais j'ai remarqué qu'il y avait deux formes de kimono qui étaient utilisées en compétition, soit un kimono plutôt ample qui nous permet d'être à l'aise dans nos mouvements, soit un plus court qui va peut-être bloquer un peu nos mouvements, mais qui va permettre de plus limiter l'amplitude des mouvements de l'adversaire.
Alors, généralement, ça va. Pour moi, tu parles?
Oui, pour toi, oui.
Alors, pour moi, en fait, j'utilise les kimonos Carioca. Donc, c'est une marque de kimono qui sont assez lourds, avec des revers, en fait, très épais, ce qui fait que très, très compliqué à attraper, en fait. Donc,
D'accord.
ça, c'est la marque de kimono que j'utilise depuis 5 ans facilement maintenant, et j'ai jamais changé de marque depuis.
D'accord. Donc, ok, Carioca, les gens, si vous voulez regarder un peu plus, n'hésitez pas. Apparemment, c'est pas mal. Et tu parlais de la pesée tout à l'heure. Je voulais savoir comment tu fais pour gérer ton poids, justement. Est-ce que tu as une alimentation, une diète que tu suis 6 mois à l'avance, 3 mois à l'avance? Est-ce que tu as une morphologie? Tu t'embêtes pas trop avec ça?
Alors, j'ai de la chance, en fait, d'avoir. Moi, je suis en catégorie des moins de 66 kilos. Et j'ai de la chance d'avoir un poids, en fait, qui fait à peu près ce poids-là. Donc, généralement, je tourne entre 65,5 et 66,5. Grand maximum que je peux monter, c'est 67 kilos, tu vois.
D'accord.
Donc, généralement, je suis au poids. Et quand je suis pas au poids, j'ai pas besoin de me mettre 2 mois à l'avance. Généralement, une semaine en avance. En arrêtant le grignotage, ça passe.
OK. D'accord, parce que tu es quelqu'un qui n'a pas forcément une hygiène alimentaire idéale, tu parles de grignotage.
Je suis pas, en fait, je suis le gars comme j'ai dit, je suis pas un sportif élite, ce qui fait que je suis pas le gars qui va me priver si j'ai envie de manger, bah, je sais pas moi, un resto, un barbecue, ben, j'irai manger un resto, un barbecue, si j'ai envie de, je sais pas moi, parce que voilà, je suis d'origine suisse, du coup, moi, il y a le chocolat, tu vois, si j'ai envie de manger un chocolat à 4 heures, ben, je mange un chocolat à 4 heures et voilà.
Ouais. Après, je trouve que c'est plus sain aussi ce genre de pratique. parce que quand on arrive sur ce que tu parles, donc élite et pro, on rentre dans du travail et du coup, on est plus sur ce rapport au plaisir dont tu parles depuis le début. Tu fais un retour au plaisir. Et c'est vrai que c'est intéressant de noter cette différence entre le professionnel et la personne qui a envie de progresser, mais qui veut garder du plaisir. Et je trouve que c'est très important. Et je pense que ça fait partie de ce qui te donne la motivation, peut-être. J'ai l'impression que tu prends toujours du plaisir.
Et... j'ai toujours dit, hein, et j'ai déjà dit à mes coachs, à mes partenaires et tout, j'ai dit le jour où le judo, je prends plus plaisir à le faire, j'arrête. Voilà.
Ouais. C'est juste. Mais c'est difficile, des fois on y va par habitude. Je pense que tu en as vu aussi dans ton dojo, mais moi j'en ai croisé dans certains dojos des personnes qui viennent par habitude plus que par plaisir.
C'est ça, il y en a beaucoup en fait qui viennent et c'est comme ça, c'est qu'en fait ils ont oublié en fait que le judo ils l'avaient aimé, tu vois, qu'ils avaient aimé ce sport et au bout d'un moment ça leur plaît plus, mais vu qu'ils sont en fait habitués à tous les lundis, mercredis, vendredis à venir, ils viennent, tu vois, sauf que moi, je considère qu'à partir du moment en fait, où tu arrêtes de prendre du plaisir, tu ne progresses plus. Du coup, ça ne sert plus de venir, en fait. Change. Moi, si ça fait 15 ans que je continue le judo, c'est parce que ça me plaît. Et pendant 15 ans, je ne me suis jamais... Si, alors, il y a une fois où j'ai dit que j'allais arrêter, mais finalement, en fait, c'était plus dans le mode de l'énervement que dans le mode de la vérité, quoi.
Ouais, tu étais sur un moment de colère ou quelque chose comme ça.
Et... en fait, c'était après ma 5e blessure aux épaules. J'ai dit, putain, ça va continuer longtemps, ça, comme ça. Je me suis énervé, j'ai dit, c'est bon, je vais arrêter le judo. Et au final, je n'ai pas arrêté.
Ouais, voilà, après, c'est pas quelque chose que tu as pensé sincèrement. Voilà, c'est la frustration sur le moment. On va passer sur les questions un peu plus perso. Quel est ton meilleur souvenir dans ta pratique sur les tatamis, quel est ton meilleur souvenir?
Mon meilleur souvenir dans la pratique, c'était, alors j'ai eu de la chance, c'était la remise de ma ceinture noire. C'est tombé pile au bon moment, en fait, hein, parce que c'était le jour de la fête du club. Chaque année, en fait, le club, on fait une fête, donc pour remettre les nouveaux grades aux petits et tout. Et généralement, les ceintures noires, on les remis, on va dire, 2-3 jours après qu'ils les ont eues. En fait, j'ai eu de la chance. J'ai obtenu en fait la validation de la ceinture noire une semaine avant la fête du club. Du coup, le bureau et tout, ils m'ont dit, écoute, pour que ce soit beau, on va te le donner le jour de la fête. Moi, je dis, OK, il n'y a pas de problème, j'ai attendu 15 ans pour l'avoir, cette ceinture, je vais attendre encore un peu plus. Et j'ai eu de la chance parce que c'était les 30 ans, en fait, de mon club. Et ils avaient invité des légendes, en fait. Ils avaient invité André Garcia, qui était champion de France minime à l'époque. Ils ont invité Patrick Vignal, qui actuellement, c'est un gars qui lutte pas mal pour le MMA en France. Et ils ont invité un gars qui avait fait le tournoi de Paris. Pour ceux qui connaissent, c'est un très grand tournoi international. Et c'est un sixième dan, et c'est lui qui m'a remis, en fait, ma ceinture noire. Du coup, l'image, elle était belle, et c'était un beau souvenir.
D'accord. Ça, c'est quelque chose de touchant, et je trouve ça intéressant. Tu vois, on parle de la compétition, etc. Et le côté humain qui existe à côté, c'est finalement ce qui t'a le plus marqué.
Même en compétition, les gars, genre les gens qui te disent ouais, tout la compétition, c'est des mecs et tout qui combattent tout le temps et tout. Mais en fait, faut savoir un truc, c'est que les compétiteurs, on est tous potes. On est tous potes. Du coup, dès qu'on sort du tapis, en réalité, on déconne ensemble, tu vois.
Bien sûr, c'est quelque chose de très humain en fait. Au final, c'est pas combattre pour combattre. On essaye de s'améliorer, mais on n'est pas là pour écraser l'autre.
C'est exactement ça.
C'est vrai que ça crée des liens très très forts. Et maintenant, on va en venir. Bon, alors je pense savoir c'est lequel maintenant qu'on a discuté. Mais quel est ton pire souvenir sur les tatamis ?
Mon pire souvenir sur les tatamis, c'était. Attends que je réfléchisse parce que j'en ai pas mal quand même des souvenirs à la con quand même. Hein. Mais ça doit être. Ouais. C'est la cinquième blessure que j'ai aux épaules, ouais. Parce que je revenais en fait d'une saison un peu merdique. Je m'étais blessé aux épaules à la même compétition il y a un an. Du coup, j'étais KO. Je suis arrivé, j'avais fait une saison merdique. J'ai eu de la chance, mais je sais même pas comment j'ai fait sans quasiment aucune préparation. Je crois que j'ai dû faire 2 mois de judo dans cette saison tellement j'étais blessé. J'ai eu de la chance, je me suis qualifié au France 2D cadet, pour ceux qui connaissent. C'était la... À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Mais maintenant, ça s'appelle les championnats de France 2D. À l'époque, ça s'appelait la Coupe de France cadet. Donc, je me qualifie pour la Coupe de France, j'arrive et je me fais défoncer l'épaule au deuxième combat. Au deuxième combat, je me fais défoncer l'épaule. Mon acromioclaviculaire déglingué. J'étais en pleurs, je me suis dit, mais c'est pas possible, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Et j'étais vraiment mal ce jour-là, mais vraiment mal. C'est le pire souvenir, je crois, que j'ai eu de toute ma carrière.
J'espère que tu n'en auras pas de pire et même ni de cette ampleur-là. Ça, c'est...
Je touche du bois, ça fait 3 ans que ça m'est plus arrivé.
Ouais. On va essayer que ça continue comme ça. Quel est ton exercice préféré, que ce soit en préparation physique ou en préparation mentale?
En préparation physique ou en préparation mentale?
Oui, l'exercice que tu aimes faire, qui te fait du bien vraiment, qui...
En préparation mentale, j'aime bien la visualisation. C'est pas mal ça. Ça, c'est un truc que j'ai pas mal pris. Ouais, ça c'est. J'aime bien ça. Je suis beaucoup. Ça me déstresse pas mal avant une compétition, un truc comme ça. Et en préparation physique. Franchement, je sais pas. J'ai pas de préférence. En fait, j'aime bien la prépa physique. Du coup, quand j'en fais, je suis bien. Mais j'ai pas de préférence.
Préfère à la limite une séance, alors entre une séance cardio, une séance renforcement pur, tu as une préférence? Même pas? T'aimes bien varier?
Alors, je peux te dire le pire que je connaisse en prépa physique, mais le meilleur, non.
Et alors le pire, alors allons-y en prépa physique et en prépa
Le pire
mentale.
en prépa physique, j'ai horreur de courir, mon pote. J'ai horreur de courir. J'aime pas courir pour courir, en fait.
Ouais,
Voilà,
comprends.
pour moi, c'est débile, en fait. Alors, j'adore courir quand on fait un rugby. Ça, je
Ouais.
kiffe. Bah, je cours dans tous les sens, c'est aucun problème. Par contre, courir pour courir, ah, j'aime pas. Ah, j'aime pas.
Ouais, j'étais exactement pareil et j'ai appris à courir et à apprécier de courir en faisant du fractionné. Le fractionné, ça m'a donné, parce que j'avais un objectif entre chaque course en fait, et essayer de faire un peu plus de distance. Et c'est vrai que c'est parce que j'étais exactement dans la même ambiance, j'aime pas courir effectivement. Et en préparation mentale, il y a un exercice que tu détestes faire ou que tu trouves pas du tout productif pour toi.
Alors, il y a un exercice, pas que je déteste faire, mais que j'oublie tout le temps, en fait. Hein, et des fois, ça me fait chier, parce que le matin, je l'oublie. C'est quand je me lève, en fait. J'ai pris pour habitude, en fait, d'écrire des mots encourageants, tu vois.
Ouais.
Des mots encourageants ou des objectifs. Et des fois, quand je me lève, en fait, ben, je l'oublie, ça. Ça m'est déjà arrivé, et des fois, ça m'a énervé.
D'accord. Donc, en fait, du coup, c'est plus l'oubli de faire
Ouais.
cet exercice qui t'énerve. Parce que,
Ouais,
du
c'est
coup, ça,
plus.
ça t'aide pas mal dans la journée ou
Voilà, parce
t'as
que
un
je me
temps.
dis, parce que je suis en cours là, des fois, en amphithéâtre, je me rappelle, ça m'est déjà arrivé, j'étais en cours en amphithéâtre, et il y avait un collègue à côté de moi, et je fais, putain! Et mon collègue, il se retourne, il fait, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait, putain, mais j'ai oublié d'écrire le mot là.
C'est marrant, ça. Parce que du coup, ça montre à quel point ça peut te toucher dans ta journée. Le simple fait d'écrire des mots le matin, ça t'impacte plus tard dans ta journée. Si tu avais un conseil à donner à un débutant, là, il y a quelqu'un qui vient, il a commencé au début de la saison, et là, tu as un conseil à lui donner, tu lui donnerais quoi?
Un conseil à donner à un débutant,
Ouais.
franchement, je lui dirais, mec, tu vois ça? Éclate-toi. Voilà, amuse-toi, mon pote. C'est tout.
Ouais, toujours le plaisir, c'est vrai que.
Ah oui, c'est ça. Parce qu'à un débutant, je n'ai pas commencé à lui dire, ouais, bon, alors écoute, là, on a des championnats de France à préparer, il va falloir que tu fasses ça, ça, ça. Écoute, pour tes grades, il va falloir que tu fasses ça, ça, ça. Non, un débutant, il arrive, il ne sait même pas ce que c'est. Bah écoute, mon pote, éclate-toi. Hein.
C'est ça, je suis assez d'accord. Et est-ce que tu aurais un pratiquant que tu as croisé qui t'a particulièrement marqué?
Alors, il y a en compétition ou en général?
Peu importe, un pratiquant vraiment que tu as eu la chance de croiser et tu te dis, waouh, j'ai eu la chance de croiser cette personne-là.
Alors exactement, il y a 3 pratiquants qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment marqué dans ma vie, tu vois. Déjà, il y a mon coach.
Ouais.
Voilà, il y a mon coach, hein, voilà, c'est pour ceux qui connaissent, il s'appelle Adrien Spiteri. Donc c'est lui en gros qui a repris la relève de mon premier coach et qui m'a vraiment forgé de ado jusqu'à ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Donc lui, c'est la première personne qui m'a vraiment marqué. La deuxième, ben, c'est mon premier coach qui s'appelle Gérard Spiteris. C'est le président du judo club des Cheminots-Lunels qui, en fait, m'a créé. En fait, c'est lui, en fait, qui a forgé la base, en fait, de ce que je suis, qui a repris, en fait, Adrien par la suite.
D'accord.
Et la troisième personne qui m'a vraiment marqué, alors ça, l'histoire, elle est drôle. C'est Loïc Pietri, qui a été champion du monde en 2013. Alors, l'histoire, elle est drôle, en fait, parce que en 2014, il y a eu les championnats d'Europe à Montpellier. Et j'étais allé voir, en fait, et Loïc Pietri était champion du monde actuellement. Enfin, j'étais champion du monde à l'époque. Et je le croise par hasard dans les couloirs. Mais par hasard. Du coup, j'y vais, je commence à lui parler, je lui demande une photo. On prend une photo, et le gars, en fait, était pressé parce qu'il devait prendre son bus avec l'équipe de France pour rentrer à l'hôtel. Et du coup, il me dit au revoir. Et en fait, en me disant au revoir, malheureusement, il bouscule ma main et il a failli péter mon téléphone, en fait. Il a failli péter mon téléphone. Du coup, il s'est retourné et il était trop mal à l'aise. Mais moi, j'étais trop content. J'avais la photo de Loïc Pietri. Je fais non, t'inquiète, vas-y. Et ouais, ça, c'est un souvenir drôle et c'est un truc qui m'a marqué, ça.
Ouais, c'est très humain. Encore une fois, il a été champion du monde et c'est vrai que bon. Bon, il y en a toujours qui prendront le melon, mais en règle générale, dans les arts martiaux, je trouve que la majorité reste assez humble, finalement, malgré les titres
mondiaux. Il y en a beaucoup qui restent humbles. Il y en a un, d'ailleurs, qui m'a vraiment marqué pour son humilité. C'était incroyable. L'histoire, elle est géniale. C'était Lacha Chavtadouachvili. Pour ceux qui connaissent, c'était le champion olympique 2012. C'est un géorgien. Je crois que j'ai jamais vu un gars aussi sympa de ma vie, tu vois. Le gars, j'ai pas pu trop l'approcher. J'ai pu lui serrer la main et tout, tu vois. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que le gars, en fait, il est géorgien, il parle pas trop anglais, tu vois. Mais il jouait avec les enfants, tu vois. Les enfants le connaissaient pas trop, tu vois. Ils voyaient qu'il avait, en fait, la veste géorgienne, tu vois. Du coup, ils savaient que c'était une star du judo, tu vois. Du coup, ils allaient vers lui, ils savaient pas qui c'était, mais ils allaient vers lui parce qu'ils savaient que c'était un judoka, tu vois. C'était au championnat d'Europe toujours. Et lui, il s'amusait à jouer avec les enfants, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça génial, en fait, de la part d'un judoka.
Ouais, et puis, ouais. Moi, je trouve l'histoire, voilà. C'est vrai que c'est une belle histoire, encore une fois, parce que c'est quelqu'un qui a pas fait ça forcément pour les caméras ou quoi que ce soit, mais juste parce que ça lui faisait plaisir.
Il n'y avait personne. Il y avait personne. Hein. C'était comme ça. C'était à la sortie, en fait, des athlètes.
Hein. Ouais, donc. C'est vrai que voilà, c'est une belle histoire. Eh bien, dis donc, ça en fait des choses à raconter, tout ça. Écoute, j'ai une dernière question pour toi. Quelle question tu aurais aimé que je te pose ?
C'est quand qu'on mange ?
bientôt. Un petit barbecue, du coup ?
Ah, il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de problème.
Un barbecue avec du chocolat, si j'ai bien compris.
Toujours de la saucisse.
Toujours de la saucisse. Maxime, je te remercie. Alors, avant de couper cette communication, avant de couper cette interview plutôt, je voulais te remercier parce que, bon, alors ceux qui ne le savent pas encore, il nous permet de l'accompagner sur la préparation mentale. On travaille avec lui pour ses deux grands combats qui approchent le 23 et le 26 juin. Je te laisse présenter les deux combats qu'on va faire.
Alors, le 23 juin, donc j'ai les championnats de France de judo 3D par donc senior, donc la catégorie d'âge qui est juste au-dessus de la mienne. Et du coup, j'irai avec mon club et j'ai demandé à Marvin de m'épauler, en fait, sur tout ce qui est de la préparation mentale. D'ailleurs, c'est lui qui m'épaule depuis janvier. Et le deuxième gros événement, c'est le 26 juin, c'est l'HBI, en fait, qui est un gros event de tout ce qui est combat au sol, qui est tenu par Sébastien Tchad, qui est une référence, en fait, dans le grappling français. Du coup, allez voir, c'est l'HBI. Je ne sais pas quel HBI exactement ce sera, mais j'y serai le 26 juin à l'Institut National du Judo.
Super. Et qui c'est que tu affrontes ?
À la base, je devais affronter Frédéric Rabé, qui est un très très grand combattant de jiu-jitsu brésilien. Malheureusement, la date a décalé. À la base, c'était le 23 juin, donc en même temps que les France. Maintenant, c'est le 26 juin, donc heureusement. La date a décalé. Du coup, Sébastien m'a dit que ce serait peut-être pas lui,
D'accord, il n'était pas dispo sur cette date. Hein.
Voilà, et qui m'a dit qu'il allait voir soit pour les disponibilités de Fred, soit un autre combattant. Donc pour l'instant, je suis en attente.
D'accord. Eh bien voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est quand même quelqu'un, il est resté très humble. Moi, je remarque que tout le long de l'interview, vous aurez remarqué, il reste très humble. Il a quand même affronté alors Frédéric Rabé, par exemple, on lui a quand même proposé un combat contre un ancien champion d'Europe de JJB. Donc c'est pas non plus rien du tout. Hein, et voilà, je pense que c'est l'état d'esprit qui fait que je me suis rapproché de ce judoka en particulier. Hein, c'est quelqu'un qui se prend pas la tête et qui communique tout avec plaisir. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez le supporter, il a une page Instagram. T'as un Instagram, toi?
Ouais, moi, c'est mon nom et mon prénom, Maxime Villefort.
Maxime Villefort. Donc, on vous mettra tout ça dans la description si vous voulez le supporter et puis suivre ses combats. Voilà, merci beaucoup Maxime encore pour cette interview. Je te dis à très bientôt.
Il n'y a pas de quoi.
À plus.
Allez, à plus.
Merci à vous d'avoir suivi cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous en voulez d'autres. Vous pouvez également la partager et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la prochaine interview. Tchou bye!